Et une nouvelle édition de l'économie en question, nous parlons ce matin de dépenses publiques, principal instrument de l'action collective, à savoir les sommes engagées par l'État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales et tous les organismes qui leur sont attachés. Des charges lourdes, tous les observateurs s'accordent à le dire, le poids des missions auxquelles elles doivent répondre s'est beaucoup alourdi lui aussi au cours du siècle dernier. 5 600 000 agents sont employés aujourd'hui dans la fonction publique, ce sont les chiffres de l'INSEE fin 2014. Ce nombre fait débat aujourd'hui, comme on a pu l'entendre tout au long de cette campagne pour la primaire de l'élection présidentielle, campagne du Parti Républicain et du Centre. François Fillon et Alain Juppé, les deux candidats qualifiés pour le second tour, proposent tous deux de supprimer des milliers de postes d'agents publics, 500 000, 250 000, 300 000. Leurs propositions diffèrent sur ce point. Comment comptent-ils s'y prendre? Sur quelles fonctions agiront-ils? Comment se répartiront les départs définitifs et où se feront les transferts pour renforcer les fonctions qui en ont le plus besoin? À quel rythme également? Nous allons bien sûr y revenir, mais il nous faut tout d'abord examiner le niveau global de nos dépenses publiques. En les comparant éventuellement avec celles d'autres États, leur part dans la richesse nationale et surtout leur rôle et leur destination. C'est ce que nous allons demander tout de suite à nos trois invités. Les dépenses publiques menacent-elles l'économie française ? C'est donc notre sujet de ce matin et nous sommes contents d'accueillir Sophie Côté, économiste à l'Institut des politiques publiques.
Bonjour.
François Eckal, économiste, président de FIPECO. C'est un site d'information assez récent sur les finances publiques et l'économie, bien utile pour nous. Et Xavier Timbaud, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bienvenue à tous les trois et en toute fin d'émission, je vous ai demandé de venir avec un chiffre, celui que vous voulez, que vous aurez pris dans l'actualité, pour le rapporter éventuellement à d'autres chiffres, le commenter. Ce que vous voudrez. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, bienvenue à tous. Commençons effectivement par rappeler ce que sont les dépenses publiques, cela paraît évident, mais par qui sont-elles financées? Par exemple, les prélèvements obligatoires, bien sûr, les impôts, les taxes, les ressources propres qui viennent des sociétés publiques, le produit des amendes, il faut le dire, le produit des loteries aussi, ça compte, hein, pas mal même, je regarde François Eckal, je crois que c'est un gros chiffre. L'emprunt, enfin, qui tout cela, c'est donc cet instrument principal dans l'action collective. Le poids des dépenses publiques s'est alourdi en France, et si personne ne songe à le nier, il est passé d'à peine 10% de la recherche nationale au tout début du siècle dernier, donc du 20e, à 35% aujourd'hui, les années 60. Non, 35% c'était déjà dans les années 60, et beaucoup plus aujourd'hui bien sûr, puisque on est autour de presque 52%, 57,1 très précisément. Il faut être très très précis avec François Eckal, attention. L'an dernier, les dépenses publiques ont atteint 1 milliard 176 millions, c'est ça, d'euros. Allez, soyons encore plus précis.
1140 milliards.
Ah, j'avais 1176. Bon, d'accord, mais c'est important, on va pas chipoter, merci.
Ça va, on n'est pas quelques milliards.
Voilà pour les chiffres, et c'est donc ce premier commentaire que je voudrais vous demander. L'argent public donc sert bien sûr, alors rappelons d'abord, à financer aussi les prestations sociales, les collectivités. On va peut-être insister davantage sur les dépenses de l'État, François Eckal.
Bah oui, en effet, les dépenses publiques, c'est donc 1240 milliards, c'est à peu près 57% du produit intérieur brut. Il y en a une petite moitié pour les administrations de sécurité sociale, un petit tiers pour l'État et 20% à peu près pour les collectivités locales. Donc ces dépenses publiques, elles sont pour la plupart d'entre elles très utiles, hein, et très nécessaires. Donc ce sont des prestations sociales, ce sont aussi des services publics qui sont rendus. Le seul problème, je dirais, c'est qu'elles sont financées, comme vous l'avez dit, essentiellement quand même par des prélèvements obligatoires, qui représentent 45% du produit intérieur brut. Et ces prélèvements obligatoires, ils ont un coût pour l'activité économique. Et le problème des finances publiques, c'est de savoir si elles sont suffisamment utiles pour justifier les prélèvements, les impôts et les cotisations qui permettent de les financer. J'ai le sentiment que, avec 57% de dépenses publiques, ce qui est le taux le plus élevé de l'OCDE après la Finlande, nous avons quand même quelques marges pour les réduire. Je pense qu'on peut faire des gains de productivité dans les services publics et je pense qu'on peut réduire quand même quelques activités, que ce soit de l'État ou de la Sécurité sociale, qui permettraient de faire quelques économies.
Alors nous verrons un peu plus loin si cela doit passer aussi par la réduction, bien sûr, des emplois, qui est le thème qui a couru dans cette campagne, mais pas, on n'est pas obligé de ne parler que de celui-là. Votre avis là-dessus, Sophie Côté ?
Oui, alors effectivement, les dépenses publiques en France, c'est 57% du PIB, c'est-à-dire qu'on consacre donc plus de la moitié du revenu national pour des dépenses publiques. Et dépenses publiques, comme l'a dit François Eckhall, c'est à la fois des services publics, ce sont des prestations aussi. Les services publics, donc, quel est leur coût ? C'est un coût en emploi public et ça représente à peu près un peu moins d'un quart des dépenses publiques. Donc les prestations, c'est un peu plus de la moitié. Réduire les dépenses publiques, ça pose effectivement la question de quelles dépenses publiques. Donc, comme l'a dit François Eckhall, peut-être
dans
qu'il y a des missions. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a des missions de l'État qu'on attribue à l'État que finalement on ne veut plus attribuer à l'État. Peut-être qu'il y a des dépenses qui sont inefficaces. Peut-être qu'il y a des services qui sont peu productifs. Et c'est vraiment là la question, plutôt que, je pense, plutôt que de dire il faut réduire la dépense publique d'un certain montant, quitte à faire des réductions tout azimut, de savoir finalement quelles sont les dépenses publiques qui ne sont peut-être pas efficaces.
Oui, en face des dépenses publiques donc, que vous avez mentionnées l'un et l'autre, il y a les dépenses d'investissement. Et effectivement, là, on est sur un chiffre très, très différent, 65 milliards d'euros. C'est bien cela. Elles sont évidemment indispensables quand même pour la compétitivité de notre pays. Déjà, vous hochez la tête,
Xavier. Ça dépend quels investissements.
Ça dépend quels investissements, et c'est là que Xavier Tambo nous donne son opinion.
Je pense qu'effectivement, la question à la fois de la bonne allocation en ce qui concerne les investissements, parce que dans l'investissement public, on met tout autant des ronds-points que des achats de matériel militaire ou des constructions d'écoles. Alors d'ailleurs, dans l'investissement public, aujourd'hui, on ne met pas la recherche et développement, on ne met pas l'éducation, on met une partie de la recherche et développement.
François, non.
On met pas l'éducation, l'éducation supérieure. Or, ceci représente un investissement, c'est-à-dire c'est l'argent qu'on dépense aujourd'hui pour des bénéfices futurs, qui sont ceux qui sont produits par les diplômés et les gens qui sont éduqués. Alors à la fois des bénéfices économiques, mais aussi ça va bien au-delà de ça, puisque l'éducation fait partie des ciments essentiels de la société. Donc la question de l'efficacité de la dépense publique, de l'allocation des fonds publics, elle est essentielle. La question de savoir est-ce que on peut, comme ça, brosser un diagnostic très rapide en regardant le montant des dépenses publiques et dire la France dépense trop, en particulier avec un argument qui revient souvent, qui est de dire la France dépense plus que ses voisins. Alors là, par contre, moi, là, je voudrais quand même apporter un bémol.
Allez-y.
Ça a été dit, il faut différencier les dépenses publiques avec, d'un côté, ce qu'on appelle les prestations sociales. En fait, dans les prestations sociales, il y a beaucoup de dépenses de retraite. Et ce sont ce qu'on appelle des dépenses de transfert. Je prends à Paul pour donner à Pierre. Et souvent, ce sont des dépenses de transfert qui sont liées à des droits qui sont ouverts et qui sont ouverts par des systèmes contributifs. Donc, j'ai contribué à la santé et donc j'ai le droit, quand je suis malade, de percevoir le remboursement de mes soins. J'ai cotisé à l'assurance chômage, j'ai le droit de toucher le chômage. J'ai cotisé à l'assurance retraite. Donc, ces dépenses de transfert, potentiellement, les dépenses de transfert, elles pourraient représenter plus de 100% du PIB. Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui tourne. Donc, on taxe les retraites. Donc, vous voyez, l'argent que vous recevez au titre des transferts, il est lui-même taxé pour être redistribué sous une autre forme. Donc, il n'y a pas potentiellement de limite. Et ce qui est très important, c'est que la France se distingue de ses voisins uniquement sur la partie dépenses de transfert. Si on regarde les dépenses d'éducation, ou ce qu'on appelle les dépenses régaliennes, l'administration, l'armée, la police, la justice, etc., les dépenses d'intervention, on est exactement dans la moyenne des pays développés.
Oui. Tout petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on a assisté à un empilement de ces dépenses vers les prestations sociales. On a l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus.
C'est pas ça. C'est que la France.
Les pensions de retraite, remboursement, indemnisation, allocation, logement, ça fait beaucoup, non ?
Non, c'est pas un empilement. Parce que dans tous les pays, il y a une assurance retraite.
Oui.
Mais dans beaucoup de pays, l'histoire a fait que l'assurance retraite, elle est construite, par exemple, sur des mécanismes de mutualisation entre partenaires sociaux. Donc, par exemple, en Allemagne, une grande partie de la retraite, elle est obligatoire, au sens que quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes obligé de cotiser et vous avez ensuite des droits que vous exercez. Mais comme elle est liée à un système à l'intérieur d'une entreprise ou d'un secteur, elle est considérée comme une retraite privée. Alors qu'en France, on a un système qui est presque intégralement centralisé. Et donc du coup, tout est comptabilisé comme dépense publique et comme prélèvement obligatoire. Maintenant, la retraite des Français, elle n'est pas plus généreuse que la retraite des Allemands. Donc si on regarde les choses du côté de la retraite, en fait, il n'y a pas plus de dépenses de type retraite en Allemagne qu'en France. Et donc, du coup, le classement de la France, il n'est pas celui qu'on pense. Et ça, c'est quand même un point important parce que c'est souvent le point de départ pour dire « il y a trop de dépenses publiques en France ».
François Eckhall. On va voir après quelle est la part pour le personnel, hein, qui est notre...
D'abord, je pense en effet qu'il est impossible de dire qu'il y a un taux maximum de dépenses publiques qu'on ne pourrait pas dépasser, et que la France a dépassé, etc. C'est impossible de le prouver. Je pense que la bonne référence, c'est de considérer que on a des impôts et cotisations sociales qui ne devraient pas être beaucoup plus élevés que celles des autres pays, parce que s'ils sont beaucoup plus élevés, ça finit par poser des problèmes de compétitivité des entreprises ou d'attractivité du territoire pour les Français et les entreprises. Donc je pense que la bonne référence, elle est quand même, que font les autres pays. Alors, pour reprendre aussi ce que disait Xavier, c'est vrai, quand on regarde ce que font les autres pays, l'écart entre les dépenses publiques françaises et celles de la moyenne de l'Union européenne, il vient beaucoup plus des prestations sociales que des services publics eux-mêmes. C'est vrai. Donc il y a probablement des choses à faire du côté des prestations sociales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire du côté des services publics, parce que je suis quand même persuadé que il y a beaucoup de gains de productivité qui sont encore possibles dans les services publics. Donc même si nous ne sommes pas totalement... très différent des autres pays, ça n'empêche qu'on peut encore faire des efforts.
Très vite, Xavier Tabou, puis Sophie Côté, je voudrais qu'elle ait le temps de vous répondre.
Alors, je vais juste donner un tout petit argument qui est très important et qui contredit complètement ce que François vient de dire.
C'est pour ça que je donne la parole.
C'est pour ça qu'il est très important. On peut comparer, par exemple, le système de santé français, le système de santé américain. Le système de santé français, est extrêmement socialisé. Voilà, il est extrêmement socialisé. Donc tout passe par des prélèvements et des remboursements. Le système de santé américain est beaucoup plus privé, assurance privée, etc. La dépense de santé, elle est double aux États-Unis qu'elle n'est en France. Et donc un système socialisé ne correspond pas forcément à un système plus efficace. Le système le plus efficace en Europe de santé, c'est le système britannique, et il repose sur une socialisation encore plus forte que celle du système français, puisque le secteur de médecine libérale est réduit à son minimum. Et donc, voilà. Donc ça, c'est quand même un exemple que quand on socialise, on n'a pas forcément plus de dépenses, plus de prélèvements. On peut avoir un coût supérieur quand on privatise.
CQFD pour Xavier Timbaud. C'est bien dit.
La réalité nous entoure.
Sophie Côté, on enchaîne rapidement sur justement la place des emplois dans tout ça, hein, puisqu'on l'a dit, c'était au cœur des débats de ces dernières semaines. Dépenses de personnel figurent en deuxième position et ça représente à peu près 20% de l'emploi du pays. Hein, nos emplois publics, là encore, il y aurait des comparaisons très intéressantes à faire avec d'autres pays. Vous venez de parler du Royaume-Uni, on peut parler aussi de la Suède ou du Canada, on va les citer si on a le temps. Sophie Côté, sur ce point.
Oui. Donc, concernant les dépenses publiques, en termes de comparaison internationale, on est donc plutôt loin de reste des pays en termes de volume total de dépenses publiques rapportées à notre revenu national. En revanche, pour les services publics, on est plutôt en Europe, plutôt dans la tranche haute, mais on n'est pas si loin de nos voisins. Et notamment, on est derrière les pays scandinaves, on est derrière des pays baltes, on est légèrement supérieur à la médiane européenne en termes de nombre de fonctionnaires pour 1000 habitants. Donc en termes de population, on n'est pas si différent de nos voisins européens. Et la vraie différence de volume total des dépenses publiques est effectivement à rechercher le plus dans les prestations. Et effectivement, avec une assurance chômage qui est socialisée en France et qui représente 300 milliards, donc un quart de la dépense publique, on est quand même sur des différences entre guillemets comptables, en fait.
Oui, mais qui ne sont pas si significatives que ça du côté, en tout cas, de l'emploi, sur la question des dépenses.
Oui, pardon.
Alors, la réduction des emplois publics, elle est pourtant bien, bien annoncée par nos candidats, on l'a dit, 5 600 000 agents au sein de l'État et des collectivités locales. Il faut quand même bien faire cette différence parce que les collectivités l'augmentation des emplois publics, je le dis d'emblée, parce qu'on va surtout parler des dépenses d'État, vient essentiellement, vous en êtes d'accord, hein, des collectivités locales, des hôpitaux et établissements publics aussi, dans une moindre mesure, mais ce sont quand même beaucoup les collectivités locales qui ont augmenté ces emplois, et c'est important de le dire. Je voudrais juste citer, Royaume-Uni, 330 000 postes supprimés en 4 ans, aucun tabou sur l'emploi à vie. David Cameron avait annoncé même encore plus, hein, autour de 25%. Et pour chaque emploi perdu dans le secteur public, nous dit-on, 3 emplois créés dans le secteur privé. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a fait recours au licenciement, ce dont il n'y a pas encore été question. En France, pour l'instant, on peut s'attendre d'ailleurs à une sacrée réaction si cela venait dans le programme de François Fillon. Pour l'instant, je n'ai pas entendu mentionner la question des licenciements. Parce que ces licenciements, donc à l'image de nos plans sociaux, hein, qui ouvrent le droit à des reclassements, etc. Autre exemple, la Suède, bien connue aussi, quasiment plus de fonctionnaires en Suède. Les fonctions de l'État restent celles de la sécurité, la police, transport ou l'école, tout le reste est privatisé. Il y a une très grande batterie également d'indicateurs de performance. En clair, on est payé, avancé au mérite, et les moins bons ne sont pas gardés. Enfin, le Canada, qui en gros, je le résume rapidement, a laissé les régions définir leurs priorités, et ce sont à elles maintenant de décider des priorités, des coupes éventuelles dans les emplois. Donc le Canada a également tordu le cou à ses déficits publics. Pour les autres, que peut-on dire? Encore des comparaisons, peut-être, François Eckhall, qui justifierait les positions que vous soutenez.
Je suis d'accord avec ce que vous dites, enfin ce qu'a dit Sophie et ce que vous venez de dire, mais j'attire votre attention sur le fait que les comparaisons internationales en matière d'emploi public sont très difficiles et très
sujet
fragiles.
À caution.
On ne sait pas vraiment, en fait, en général, de quoi on parle. Parce que en France, on parle de gens qui ont le statut de fonctionnaire, mais il y a beaucoup d'autres pays, comme vous l'avez dit, où il y a des emplois publics, c'est-à-dire des gens qui sont affectés, qui travaillent pour des services publics, qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, qui ont un autre statut, mais qui en réalité est tout aussi protecteur que le statut de fonctionnaire. Donc on ne sait pas, dans les comparaisons internationales, si on parle de fonctionnaires, d'agents des services publics, si on parle des administrations publiques ou du secteur public au sens large, avec les entreprises publiques comme la SNCF. En France, la SNCF n'est pas dans l'emploi public. Dans d'autres, enfin, vous voyez, donc c'est
prudence,
extrêmement difficile.
Prudence, vous faites bien de le dire.
Très prudent.
Oui.
Voilà, donc je...
Mais vous soutenez cependant
Je soutiens quand même l'idée que si on doit pouvoir réaliser chaque année à peu près 1% de gain de productivité, ou en supprimant quelques missions qui sont exercées par l'État, qui ne sont pas d'une très très grande utilité, on doit pouvoir réussir à réduire les effectifs publics de 1% par an. Donc 1% de un peu plus de 5 millions, ça fait à peu près 50 000 par an. Ça ne me paraît pas déraisonnable, et c'est possible sans licencier en effet, puisque on a à peu près 110 000 personnes, 110 000 fonctionnaires qui partent à la retraite chaque année. Donc ça veut dire globalement ne pas en remplacer un sur deux. Je pense que c'est plutôt dans les collectivités locales en effet qu'il faudrait faire cet effort, parce que c'est plutôt là qu'il y a des gains de productivité à réaliser ou des activités qui sont pas forcément très utiles. L'État, de son côté, a déjà fait pas mal d'efforts dans les années 97-2012. D'ailleurs, essentiellement du côté du ministère de la Défense. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de poursuivre.
Dans un premier temps, c'est peut-être moins d'actualité actuellement.
Donc, le problème des collectivités locales, la difficulté, c'est que l'État n'a pas d'instrument direct pour obliger les collectivités locales à réduire leurs effectifs. La seule chose qu'il peut faire, ce qu'il fait déjà en ce moment, c'est de réduire leurs ressources. Mais c'est un instrument très indirect.
Oui. Donc vous dites reporter éventuellement ces emplois vers le privé quand ils ne sont pas indispensable dans le secteur public. C'est un des moyens.
Tout simplement, avec les nouvelles technologies de l'information, arriver à faire en sorte qu'on puisse faire la même chose avec un peu moins d'effectifs.
Dans quel secteur, en priorité,
c'est possible. Ou supprimer.
On vous dit toujours les hôpitaux, on va quand même parler sur les hôpitaux.
Même si vous prenez l'État, est-ce que l'État a vraiment besoin pour rendre des services d'État civil, etc., d'avoir 230 sous-préfectures? Il y avait 230 sous-préfectures, c'était nécessaire à l'époque des diligences. Nous ne sommes plus à l'époque des diligences, donc je pense qu'on peut les supprimer, mais ça fait 20 ans qu'on le dit.
Xavier Timbaud, Sophie Côté. Sophie.
Oui, la question que ce débat me pose, c'est vraiment la question de où couper dans les emplois.
Voilà.
Parce que donc là, c'est aussi une différence entre François Fillon et Alain Juppé. C'est que François Fillon, il dit qu'il faut réduire partout, et Alain Juppé lui a dit on ne peut pas encore réduire les effectifs dans la police, par exemple, et en critiquant justement le bilan de Nicolas Sarkozy sur ce point. Mais... la question à poser, c'est où est-ce qu'on peut faire des gains de productivité, où est-ce qu'on peut plus difficilement en faire, où est-ce qu'on juge que certains services publics sont peut-être moins importants, et puis finalement, dans tout ça, la question se pose de réduire les effectifs des emplois publics de 500 000, c'est une baisse de 8% des effectifs, ça représente une économie de 23 milliards, si on veut baisser les dépenses publiques de 100 milliards, il reste encore 75 milliards à trouver. Donc, il se pose à la fois la question de où est-ce qu'on cible la réduction des emplois publics, et puis la question plus générale de où est-ce qu'on cible la baisse des dépenses publiques. Et ces questions-là sont que trop peu adressées dans le débat.
Oui, 500 000, juste une question, François Eckhall, ça vous paraît un chiffre raisonnable?
500 000, je contesté pense que ça n'est pas beaucoup. Réalisable.
Ça n'est pas réalisable, vous non. Le dites aussi. On passe rapidement sur d'autres moyens, vous en avez cité quelques-uns, la durée du temps de travail, là, François Fillon l'a clairement évoqué. Xavier Tambeau. Une hausse, nous dit-on, permettrait de réduire sensiblement les effectifs.
Alors, ça renvoie un petit peu à la question du statut de fonctionnaire, qui en soi est quand même une question intéressante. Parce qu'il y a vraiment deux problématiques. Il y a la problématique de... Est-ce que dans une économie moderne aujourd'hui, dans laquelle l'éducation, le capital humain, les soins à la personne ont une importance décisive, dans laquelle l'activité des femmes est plus importante aussi, donc dans laquelle il faut aussi un certain nombre de services à la personne qui correspondent à la marchandisation de ces activités liées à l'activité féminine, ce qu'on appelle l'économie non marchande, donc l'ensemble qui va au-delà des services publics, c'est l'ensemble des secteurs qu'on est obligé de réguler parce qu'ils sont liés à des formes de marché particulières, ça va de la santé à l'éducation, mais en passant par un certain nombre de services de la personne. Donc, est-ce que ce secteur-là, il est plutôt en expansion ou en diminution ? Ce qu'on voit dans les tendances, ce qu'on voit dans les comparaisons internationales, c'est quand même plutôt clairement qu'il a plutôt une tendance à l'expansion. Et ça, c'est lié au vieillissement, c'est lié à l'activité féminine, c'est lié aux besoins en capital humain et en éducation, et en sécurité, évidemment. Et ça, c'est quand même difficile... d'être dans une logique de gain de productivité. Alors, François a raison, il y a une inertie dans l'organisation de l'État qui fait qu'un certain nombre de progrès techniques ne sont pas appliqués et qu'ils pourraient l'être.
Ils ne sont pas valorisés, oui, en tout cas. Ouais.
Mais après, est-ce qu'au final, on va faire des économies globalement ou pas ? Ça, ce n'est pas du tout acquis. Alors, après, il y a la question du statut. Alors, ça, c'est une question aussi qui est assez intéressante parce que c'est un vieux statut, la fonction publique, et qu'en fait, il n'est pas du tout nécessaire. D'une certaine façon, à la bonne réalisation des services. On a des tas d'exemples, pour le coup, dans des tas de pays, de tas de statuts différents, et ce n'est pas forcément le statut de fonctionnaire qui est le plus efficace dans la délivrance du service public et dans sa bonne qualité, dans son efficacité, qui sont des questions essentielles. Alors, pourquoi ce n'est pas le plus efficace ? Eh bien, parce que derrière, il y a des questions d'organisation de travail. Bon, la Cour des comptes a fait un rapport assez intéressant sur le temps de travail, en particulier dans la fonction publique territoriale. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est un capharnaüm et un chaos total. C'est-à-dire que la forme d'organisation, la relative négligence des managers publics, c'est-à-dire des responsables politiques locaux dans tout ça, conduit à ce qu'il y a d'abord une immense diversité de situations.
Oui, mais alors je note que justement,
en termes de temps de travail,
je note que vous pointez les uns et les autres quand même beaucoup plus les collectivités territoriales que les dépenses de l'État. Je me trompe, que les dépenses de l'État, hein, parce qu'il y a les dépenses publiques, donc dans lesquelles, comme on l'a rappelé, il y a la fonction territoriale et il y a la sécurité sociale et l'État, et les dépenses de l'État proprement parlé. Oui. Il me semble que vous pointez davantage les collectivités.
Pas
forcément ce qu'on a entendu dans le débat public.
Mais oui, mais si je reprends la question de la durée du travail, justement, la référence normale pour les fonctionnaires comme pour les salariés du secteur privé, c'est 1607 heures par an. Les fonctionnaires de l'État et des hôpitaux font à peu près 1607. En revanche, les fonctionnaires des collectivités locales font beaucoup moins. Et dans le secteur privé, on fait plus que 1607 heures. Donc dans les collectivités locales, essentiellement parce qu'il y a beaucoup plus de congés, il y a le jour du maire, il y a des jours, voilà, il y a des tas de jours en plus.
Ça dépend beaucoup de la collectivité territoriale.
C'est ça, c'est pas l'État forcément qui peut intervenir.
C'est très différent d'une collectivité à l'autre. Et vous avez dans certaines collectivités, par exemple, des accords qui datent d'avant 1980, avant 1982, qui stipulait une durée hebdomadaire de moins de 35 heures et qui existe toujours, qui légalement sont toujours valables.
Mais oui, ce qui pose problème. Vous terminez rapidement, Xavier Tambeau.
On parle beaucoup de l'augmentation du nombre d'agents dans la fonction publique et en particulier celle dans les collectivités territoriales. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ça nous pose plein de questions. Donc, cette augmentation, elle a eu lieu, effectivement, quand on regarde depuis 2000, l'évolution du nombre de fonctionnaires, elle est principalement liée à ça. Et en gros, il y a 250 000 emplois si on rapporte à un nombre de fonctionnaires ou d'agents publics constant par habitant. Donc, plus de 150 000 emplois, ça correspond, enfin, c'est un chiffre important parce que ça correspond en gros à l'objectif que Alain Juppé fixe. Et c'est deux fois l'objectif de François Fillon qui, à mon avis, qui va un peu loin. Voilà. Mais pourquoi il y a ces 250 000 emplois en plus ? Alors, en fait, ils y sont parce que dans les collectivités locales, on a voulu plus d'emplois. Et pourquoi on a voulu plus d'emplois ? On l'a fait de façon délibérée. Ça correspond à toutes les opérations de mutualisation au niveau communal, d'établissements publics, les ECPI, dans lesquels on a voulu plus de services publics, plus de poubelles, plus de gestion de l'eau. Il y a un autre facteur qui a beaucoup joué qui est la réforme des rythmes scolaires, avec la mise en place d'animateurs locaux dans les communes, qui sont la responsabilité des communes. Mais ce qui est important, c'est que dans les communes, les administrés votent pour ces augmentations. Et c'est
bien
là
sûr.
Où...
Et donc alors, les politiques les sont
on,
évidemment...
On dit souvent, on n'a pas les moyens de forcer les collectivités territoriales à baisser leurs effectifs. Mais c'est pire que ça. C'est que les gens, quand on leur demande est-ce que vous voulez mieux organiser l'école et est-ce que vous voulez des crèches avec des animateurs, etc., ils disent oui et ils sont même prêts à payer pour.
On voit la complexité sur ce côté.
Oui, effectivement, il y a aussi un grand mouvement de décentralisation qui fait qu'il y a eu un peu un rattrapage. Parce que finalement, la fonction publique d'État, elle a beaucoup augmenté entre les années 50 et 80. Ensuite, c'est la fonction publique hospitalière qui a eu une croissance considérable. Et maintenant, depuis quelques années, c'est la fonction publique territoriale. Mais c'est aussi lié justement à ce mouvement de décentralisation. Et puis effectivement, il y a la question du contrôle de l'État sur cette fonction publique qui, du coup... moins du ressort de l'État.
Évidemment, ce que vous avez bien souligné les tout derniers mots, François Eckel.
Je vais reprendre l'exemple des établissements publics de coopération intercommunale. Nous avons 36 000 communes en France. Il est évident que la plupart d'entre elles sont beaucoup trop petites pour gérer l'eau, les déchets, etc. Donc il faut qu'elles se regroupent, ces établissements publics qui devaient permettre, leur but c'est de faire des économies d'échelle. Donc de permettre d'assurer les mêmes services mais avec moins de gens. Le problème, c'est qu'en fait on a doublonné les effectifs dans les communes et dans les EPCI. Donc au lieu de faire des économies d'échelle, on a beaucoup plus d'effectifs.
On reviendra évidemment sur tout cela après les primaires et dans avant les élections présidentielles proprement dites. Ça fait vraiment partie des très, très gros sujets sur lesquels les candidats auront eux aussi à revenir. Et j'espère bien que vous reviendrez nous trouver. Merci à tous les trois. Quelques minutes encore pour vous demander votre chiffre. Et on commence avec Sophie Côté. Quel chiffre ?
Je commence avec un chiffre très très banal qu'on entend très souvent et qui finalement nous ne dit plus rien alors que c'est quand même une marque d'inégalité assez flagrante. En 2013, à secteur d'activité, âge, poste et conditions d'emploi équivalentes, les hommes gagnent 10% de plus que les femmes.
Et ça continue. Et vous faites bien de le souligner. Et nous, on est bien contents de vous accueillir. C'est du côté dont je signale qu'elle est très jeune et qu'elle vient d'intégrer l'Institut des politiques publiques. On soutient les jeunes économistes.
Avec François... 10% de salaire de moins que ses collègues.
C'est vrai ou pas? Non.
L'autre sexe.
Non. Votre chiffre, François Eckel.
Je vais prendre un chiffre tiré d'une étude que je viens de publier sur mon site Fipeco et qui concerne l'État actionnaire. Donc, actionnaire dans des entreprises comme la SNCF, EDF, etc. On dit souvent reproche souvent aux actionnaires privés de prélever beaucoup trop de dividendes par rapport aux résultats des entreprises. Dans le cas de l'État actionnaire, au cours de ces 5 dernières années, l'État a prélevé 80% des bénéfices de ces entreprises publiques sous forme de dividendes, contre 40% pour les actionnaires du CAC 40. Alors même que les résultats des entreprises publiques se sont très profondément dégradés depuis quelques années. Le résultat, c'est une structure de bilan qui est devenue très fragile, avec un endettement très important et des fonds propres qui, pour la SNCF, sont négatifs à hauteur de 7 milliards. Ça veut dire que la SNCF, aujourd'hui, est insolvable.
Voilà un sujet sur lequel aussi nous allons revenir bientôt, c'est promis, il est fort important. Merci François Eckel. Fipeco, donc votre site, hein, je le dis au passage, assez récent, extrêmement instructif pour ceux qui s'intéressent aux finances publiques et à l'économie. Xavier Thimbault, votre chiffre ?
Alors moi j'en ai deux.
Bon, allons-y.
Donc plus 20 et moins 30, ils ont presque rien à voir. Plus 20, c'est l'anomalie de température dans l'Arctique ce mois-ci.
Ouais.
Plus 20 degrés Celsius.
Plus 20, ouais. J'ai entendu ça, impressionnant.
Ok. Moins 30, c'est le rendement des céréales en 2016 en France. Moins 30%. Alors évidemment, ces deux chiffres n'ont rien à voir. Peut-être que si, quand
même. Quoique. On peut peut-être faire un lien très, très clair. Merci encore à tous les trois. Sophie Côté, donc, Institut des politiques publiques. François Eckel, Fipeco et Xavier Thimbault, l'OFCE. Je vous quitte en vous signalant quand même que la semaine prochaine, nous ferons même un sujet entier sur le Women's Forum qui se tient à Deauville. C'est sa 12e édition, le Women's Forum pour l'économie et la société. France Culture en est partenaire, ça commence le 30 novembre et jusqu'au 2 décembre. Plus de 1000 délégués, femmes et hommes, quand même, scientifiques, décideurs, chefs d'entreprise, sur un thème assez nouveau pour cette organisation, l'économie du partage. Est-elle synonyme d'un monde de partage ? Et nous y serons, nous en parlons donc samedi prochain. Une autre annonce aussi, l'investissement public pour redresser la croissance qui va être présentée par l'OFCE. On n'est pas très loin de notre sujet là aussi. Investir ou dépenser. Merci encore et à notre petite équipe, bien entendu. Laurent Jeannepin a assuré la préparation, la documentation. Et c'est Laetitia Coya qui réalise l'émission en compagnie de David Federman. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Allez nous voir entre-temps sur Twitter et sur notre site L'économie en question. Très bonne journée à tous.